International Undercast.
International.
Daba International Undercast.
L'info d'en bas, c'est plus faux.
Daba.
Daba.
Bonjour, bonjour. Alors nous sommes le vendredi 18 mars et nous sommes présents aux Assises internationales du journalisme. Nous accueillons avec nous trois invités, donc Dobé Aboubakar de la Radio Libre francophone. Bonjour Dobé.
Et bonjour Sarah.
Nous accueillons également Ouattara Lansinan, média service public. Bonjour Ouattara.
Bonjour.
Et nous accueillons également François Mbra de d'ivoiretv.net.
Bonjour,
bonjour à vous. Avec moi, Khoulou Dayari. On vous passe la parole. Aboubakar, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de la Radio Libre francophone ?
Et merci Sarah. Je suis de Aboubakar, ivoirien résident en Tunisie depuis 2013. Et en 2017, j'ai eu l'idée comme ça avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment live sur Facebook, de mettre sur pied un média participatif et communautaire du nom de Radio Libre Francophone. Radio Libre Francophone, c'est un projet qui s'adresse à la communauté subsaharienne en Tunisie. Et parce qu'il faut le dire qu'en Tunisie, les médias sont majoritairement, les médias audio, je pourrais dire, sont majoritairement arabophones. Et il n'y avait pas de médias réellement qui portaient la voix de la communauté subsaharienne qui est de plus en plus grande et importante en Tunisie. Et c'est ainsi que nous avons mis ce projet sur pied. Et depuis lors, nous essayons de faire notre petit bonhomme de chemin.
Et donc la radio a été créée en 2017. Est-ce que tu peux nous parler un peu des procédures ? Est-ce que ça a été simple de créer votre radio en Tunisie ?
Ben déjà, il faut dire que ce n'est pas une radio classique. Déjà, c'est un web média. C'est un web média. Et donc, il y a une absence de loi qui régit les web médias. Donc, nous avons profité au fait de cette absence de loi-là pour pouvoir lancer notre média. Mais nous ne sommes pas une radio FM et donc nous ne sommes pas sous le contrôle de la AICA. Donc c'est ce qui nous permet de travailler parce que nous travaillons uniquement exclusivement sur les réseaux sociaux et sur notre site web internet.
Est-ce que dans votre audience, c'est ciblé pour la diaspora ivoirienne en Tunisie, est-ce que c'est pour juste les francophones ? Est-ce que vous avez des Tunisiens qui s'intéressent aux questions que vous abordez ? Est-ce que vous avez des thématiques particulières que vous avez ciblées ou est-ce que vous parlez généralement de la situation générale en Tunisie ?
Et déjà, dans un premier temps, notre public cible, c'était déjà la communauté subsaharienne, pas forcément ivoirienne. La communauté subsaharienne en Tunisie, il faut dire que la Tunisie est... Je pourrais dire la Tunisie a ce petit truc-là qui la rend spéciale. C'est-à-dire que c'est un carrefour déjà, et où il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent ici. Et cela permet de créer un certain brassage en fait, culturel. Et donc, notre premier cible, pour un premier temps, c'était la communauté subsaharienne en Tunisie. Et au fil du temps, notre cible s'est élargie. Nous sommes suivis par des Tunisiens. Et comme étant sur Internet, vous savez que la force d'Internet, c'est-à-dire que ça va au-delà même de notre zone. Et nous sommes suivis aussi par la diaspora et nous avons des followers un peu partout dans le monde.
D'accord. Donc, on sait qu'il y a des difficultés que beaucoup de migrants vivent en Tunisie par rapport à leur vie de tous les jours, par rapport à la difficulté d'accès aux droits basiques, en fait, sanitaires, etc. Les informations nécessaires par rapport aux administrations. Est-ce que cette radio se propose comme un moyen d'information pratique ou est-ce que c'est plutôt dans le débat politique de la situation des personnes en Tunisie ?
Il faut dire que nous abordons cette thématique, nous travaillons sur la migration, mais aujourd'hui, notre média s'est agrandi, je peux dire en quelque sorte, et on essaie un peu d'aborder un peu tous les sujets, parce que ce qu'il manque en Tunisie, il faut déjà faire le partage d'informations. C'est-à-dire que nous relayons des informations de l'Afrique subsaharienne vers la Tunisie, de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne. On fait un peu cela, mais notre credo, notre credo reste la communication axée sur la communauté subsaharienne, c'est-à-dire le partage d'informations, la sensibilisation. Nous abordons beaucoup de thématiques et nous travaillons en collaboration avec certaines ONG, certaines associations qui, elles aussi, travaillent sur la migration. Et donc, cela, on se positionne un peu comme un relais d'informations pour la communauté subsaharienne.
D'accord, donc c'est Radio Libre Francophone.
Oui, effectivement.
Pour les personnes intéressées. Alors, monsieur Lassinan Ouattara, vous êtes de la radio-télévision ivoirienne, donc vous êtes en Côte d'Ivoire et c'est un service public de diffusion. Vous pouvez présenter un peu ce média pour les Tunisiens qui n'ont pas forcément accès, peut-être. Est-ce qu'on y a accès d'ici? Est-ce que c'est sur le web? Voilà.
Très bien. Alors, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, c'est le média des services publics, donc créé à la chute de l'indépendance dans les années 60, donc qui a aujourd'hui près de 60 ans. Il faut indiquer que c'est un média, en fait, qui est télévision, radio et digital aujourd'hui et qui est suivi pratiquement dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, on est présent donc sur les réseaux sociaux, à travers donc des sites web, mais également, c'est un média, donc, on va dire, qui s'est développé, qui s'est adapté au fil du temps. Aujourd'hui, donc, on émet en HD, on a développé de la technologie, etc., qui permet réellement, donc, on va dire, aux médias d'être présents un peu partout, d'être suivis un peu partout.
D'accord. Est-ce que y a des, en Côte d'Ivoire, est-ce que la Tunisie, elle est, est-ce qu'il y a des, je sais pas, la culture tunisienne, est-ce qu'il y a des échanges, est-ce qu'il y a des programmes, est-ce que la culture tunisienne a une sororité avec la culture ivoirienne existante, ou est-ce que c'est juste une diaspora tunisienne qui...
Alors, il faut indiquer que la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des relations diplomatiques et de bonnes relations donc, avec la Tunisie, ce qui fait qu'il y a une communauté tunisienne en Côte d'Ivoire. Ils sont dans le commerce, ils sont dans le négoce, mais vraiment dans presque tous les secteurs, en tout cas les secteurs d'activité économique. Et cette communauté est complétée par une forte communauté libanaise, ce qui fait que chez nous, à la réalité, on a une communauté, on va dire, venant d'Afrique du Nord, mais également, on va dire, du Liban. Et donc, nous, on a tendance quelquefois, donc, on va dire, à confondre. Et cette culture-là, en fait, elle est adaptée. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des frictions, mais c'est parce que quelquefois, les cultures ne communiquent pas. Mais à la réalité, aujourd'hui, donc, les Tunisiens et, bien sûr, majoritairement, les Libanais, c'est vraiment, on va dire, des peuples qui sont très intégrés, donc, en Côte d'Ivoire. Vous avez, par exemple, des Tunisiens qui sont devenus Ivoiriens, des Libanais qui sont Ivoiriens, qui sont nés là-bas depuis des générations. Et ce qui fait que réellement, donc, aujourd'hui, on s'adapte et chez nous, il n'y a pas de différence. On ne fait pas aujourd'hui, nous, de différence entre un Tunisien et un Libanais. Et même quelquefois, vous avez des Syriens et vous avez vraiment toute la communauté du proche Moyen-Orient, mais également donc du Maghreb qui se retrouve en Côte d'Ivoire et on cohabite. Et ça aussi, c'est parce que c'est une volonté politique de cohabiter donc, avec tout le monde. On est un pays hospitalier et on ne fait pas vraiment de différence. Et nous, les médias, en tant que médias de service public, on a toujours, on va prôner cette façon en fait, de voir qui est une vision, une volonté politique réellement donc affichée depuis, on va dire, les années 60.
En tout cas, un véritable ancrage, on va dire, des Tunisiens et des Libanais, et je pense aussi d'autres nationalités en Côte d'Ivoire. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir, en tout cas, dans les médias, par exemple, marocains, d'avoir des Sénégalais, des Ivoiriens qui sont devenus aussi présentateurs de télé, animateurs de radio, et je pense que c'est une coopération et un véritable ancrage de nos concitoyens dans nos différents pays. Je voulais vous poser la question, Lassinan, par rapport du coup à votre médias et par rapport aussi à votre présence aujourd'hui aux Assises internationales du journalisme, est-ce que vous la ressentez, cette africanité, en étant ici aux Assises à Tunis?
Alors, oui, cette africanité, on la ressent. Moi, pour venir ici, je n'ai pas eu besoin de visa. Ça, c'est la première des choses. Et quand je quitte Abidjan d'ici, c'est vrai qu'il y avait la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, donc, mon passe sanitaire me permet réellement donc, de venir sans que j'aie à faire un test PCR, sans éventuellement que j'ai à présenter peut-être un pass sanitaire, parce que à la réalité, je pense que c'est des questions de diplomatie et c'est vraiment aussi de la confiance. Et une fois qu'on arrive ici, on a eu le temps en tant que journaliste donc, de tourner, de voir donc, cette, on va dire, cette belle ville, de voir aussi cette ville africaine, ce pays. Et je pense qu'il n'y a pas réellement donc de différence. On a pu voir dans l'avion, d'ailleurs, en venant, qu'il y a beaucoup réellement donc de personnes qui viennent. Bien sûr, c'est une, on va dire, c'est une terre d'accueil, mais aussi, on va dire, une zone de passage pour les migrants. Et cela fait que, du coup, il y a un vrai brassage. On ressent ici, si le pays était, on va dire, fermé, si le pays n'était pas aussi accueillant, je pense que les gens ne viendraient pas. Et d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, nous, on est venu donc sans visa, c'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent sans visa. Et ça aussi, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on peut ressentir, au-delà, donc, on va dire, de l'aspect culturel qui, je pense, pour moi, on s'adapte. L'Afrique, c'est, voilà, peu importe là où on se trouve, une fois qu'on est sur le continent, on ressent dans la chaleur, dans la façon de voir, dans la façon de faire, même si quelquefois la nourriture peut être différente.
Bon, il y a un restaurant ivoirien pas très loin, venu voilà. De Paris. Voilà. Dobé, en fait, je vais juste continuer sur ce qu'il vient d'annoncer, mais toi, tu es installé ici, donc tu sais que tu n'es pas juste de passage. Donc, est-ce que vraiment il y a une africanité? Est-ce que vraiment, mais honnêtement, est-ce que nous, les Tunisiens, la vie en Tunisie, est-ce qu'il y a une appartenance à l'Afrique claire? Est-ce qu'on se sent juste un pays du Maghreb, un pays arabe, mais est-ce qu'on s'identifie à l'Afrique? Est-ce que ça, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça existe? Ou il y a cette déconnexion, ce déracinement par rapport au continent?
La question, elle est... Bon, là, je pourrais dire... déjà, nous, à notre niveau, nous avons tourné une fois un micro-trottoir et nous avons demandé à des Tunisiens où était située la Tunisie. Et beaucoup ne savaient pas. Beaucoup ne savaient pas. D'autres disaient que nous sommes de la Méditerranée, d'autres disaient que nous sommes proches du Moyen-Orient et tout ça. Donc, pour vous dire un peu que la Tunisie, c'est dit africaine, mais la Tunisie ne prouve pas, sinon elle ne présente pas assez son africanité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Et il va falloir qu'on revienne aux bases, c'est-à-dire que depuis l'éducation déjà, faire comprendre aux Tunisiens qu'ils sont bel et bien africains et qu'ils sont du continent africain. Et quand tu leur reproches cela, ils te disent non, ben écoutez, c'est la Tunisie qui a donné son nom à l'Afrique, Ifriqiya et tout et tout et tout. Ben en réalité, ça reste juste des mots, ça reste juste des mots. Et très souvent, pour nous désigner, nous, subsahariens, ils nous appellent les Africains. Ils nous appellent les Africains. Ils ne cherchent pas à savoir si tu es Ivoirien ou tu es Camerounais. Ben, et pour eux, tout le monde est Africain. Et ben, si nous sommes Africains, vous êtes quoi alors?
Ouais.
Bon, ça, c'est la question qu'on se pose.
Mais sur la question, je pense que réellement, quelquefois, c'est moi, pour avoir fait des pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, et pour avoir fait également donc l'Égypte et quelquefois des pays du Proche au Moyen-Orient, je peux comprendre. Parce que géographiquement, donc, vous êtes sur un même continent, mais votre histoire s'est plus passée donc autour de la Méditerranée. Donc éventuellement, les gens se sentent plus méditerranéens d'un point de vue culturel et d'un point de vue de l'histoire par rapport à la présence physique et géographique sur le continent. Et après, de quoi il s'agit exactement pour que, évidemment, donc les gens puissent se sentir africains. Mais de voir que réellement, parce que c'est une volonté politique aussi d'un point de vue du continent. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, quelquefois, les Sud-Africains se sentent plus Sud-Africains qu'Africains.
Oui.
Et quand vous arrivez dans des pays comme le Botswana, etc., mais l'Afrique de l'Ouest, ils ne connaissent pas. Ils vous disent, quand vous dites que vous venez de Côte d'Ivoire, quelquefois, ils ne savent pas. Quand vous l'êtes, quelquefois, ils connaissent plus ou moins Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, parce qu'ils ont entendu parler. Donc, c'est cela. C'est-à-dire que sur le continent, la réalité, je pense que c'est une volonté politique. Et l'Union africaine, quelquefois, qui prône l'unité du continent, etc., doit pouvoir avoir des possibilités, donc faire en sorte que les peuples se retrouvent. Parce qu'on a des associations, on a des unions, mais ce n'est pas des unions réellement donc de peuples et d'échanges pour qu'on puisse sentir l'africanité. Vous avez des universités, mais pourquoi est-ce que ne pas les rendre universités africaines? De sorte à ce que donc on parte quelquefois, qu'on soit tunisien, algérien, qu'on soit du Botswana, de Côte d'Ivoire, de Sénégal, de Mali, de Guinée, de Cap-Vert, qu'on ait quelquefois des universités communes où on va à l'école ensemble avec des enseignants qui sont susceptibles donc de nous donner le savoir en tant qu'Africain, pas en tant que Tunisien, etc. On garde, c'est vrai, nos spécificités, mais je pense qu'il faut des institutions qui soient capables donc de nous envoyer donc à l'Union. Et l'Union, comme il a dit, par l'éducation au départ, et l'éducation, mais également donc à l'enseignement et dans notre quotidien. Et à partir de ce moment-là, on peut bien sentir qu'on est africain ou pas, quel que soit l'endroit où on se trouve.
En tout cas, vous faites bien de le dire parce qu'il y a en tout cas un véritable travail de fond encore à faire. Ah ben. dans les pays du Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et en Libye et même en Mauritanie, pour mieux nous approprier notre africanité. On se revendique souvent arabe, on se revendique souvent berbère, on se revendique amazigh, on se revendique méditerranéen, on se revendique de différentes identités, mais on ne reconnaît pas assez notre africanité. Je pense que là, les identités doivent pouvoir être, en tout cas être plurielles pour qu'elles ne soient pas meurtrières. Et là, je vous cède la parole. François Bradeux, qu'est-ce que vous en pensez de cette africanité ?
Vous savez, vous l'avez bien dit, François Mbradeux, je me reconnais fils de Sahabo, fils de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le 2, pour dire j'ai des racines et je ne dois pas oublier ces racines. Et évidemment, quand je suis arrivé en Tunisie, c'est la première fois de visiter la Tunisie. Hier, j'étais dans deux quartiers et quand j'ai dit mon nom c'est Mbradeux, le regard était un peu un regard de dédain. Par la suite, j'ai dit non, il faut que je change mon nom. Et là, désormais, je m'appelle Yassir Ben. Quand j'ai dit Yassir Ben, alors ils se sont sentis un peu plus proches de moi pour dire mais là, c'est un Ivoireau tunisien ou c'est un Ivoirien ? Mais je suis bel et bien Ivoirien, je suis Africain. J'aurais bien voulu que, en prononçant le nom François Mbradeux, qu'on me demande, mais vous êtes de quel pays de l'Afrique ? Pour dire qu'on est tous Africains. On est tous Africains, mais ils m'ont plus vu en Africain. Je suis Africain plus que, alors que nous sommes tous Africains. Donc l'africanité n'est pas trop revendiquée par les Tunisiens, par les
par
pays.
Par les Maghrébins en général.
Et ma dobre prod. Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand Babu, reçois ma requête. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand Babu, reçois ma requête. À cause des petits mouvements là, les gens là me regardent mal. À cause de ma propre étoile, ils veulent m'étouffer. Bon Dieu, prends-moi sur ton aile, fais-moi voler. Président Docteur Boulay Meïté, ils veulent que je sois la risée du quartier. Ils veulent que je sois le sujet de mon kéri. Oh, ben tu les vois, non? Regarde ce qu'ils font dans le noir. Ils vont s'armer contre moi et faire de moi la repart. Bon Dieu, prends-moi sur ton aile. Fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me guette. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand Babu, reçois ma requête. Oh non, 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 ils ne pourront pas, tant que Dieu dit non. Ils ne pourront pas, à l'aide de Gassien. Ils ne pourront pas, tant que Dieu dit non. Ils ne pourront pas, ils vont vouloir me faire tomber. Ils ne pourront pas, tant que Dieu dit non. Ils ne pourront pas, j'y puis des fallis, tant que Dieu dit non. Mia, mia, à toi tout. Car je sais que tu me protèges. Kiki Benzeni, le feu de Bruce. Kofi Olomide, Grand Mopao. Ahmed Eto, Waraba Debeko, grand chef le saisonnier. Kader Sarkozy, président Kobi. Malik et Dramé, ils font se fatiguer. As-tu Willy le boss? Le fournisseur.
Pablo va de Paris. Capitaine Bamoussa Bamba. Polito Touré. Prince Habib Nguessan. David Eto. La voix autorisée.
Oui, mais le cas de la Tunisie, c'est de ça qu'il s'agit.
Mais votre média, monsieur François Mbradeux, pardon, c'est ivoiretv.net.
Oui.
Et c'est un média qui relaie pour la diaspora ivoirienne aux États-Unis.
Oui.
Mais est-ce que la communauté ivoirienne aux États-Unis, elle le vit comment, cet expatriement de...
Oui, la communauté ivoirienne est de façon représentative aux États-Unis. Quand vous arrivez dans l'État de New York, vous verrez assez d'Ivoiriens. Et à un certain moment de leur histoire, ils se sont dit, mais nous sommes dans la diaspora ivoirienne, aux États-Unis. Comment communiquer avec nos parents qui sont restés en Côte d'Ivoire? Il fallait ce lien-là. C'est à partir de là que cette diaspora a créé ivoiretv.net. À l'époque, la technologie n'était pas aussi développée en Afrique. Les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, c'était rare d'entendre parler de certains réseaux. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je vais dire l'évolution dans le temps, ça a permis aux Ivoiriens de la diaspora de communiquer plus facilement avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc à travers une télévision qu'on appelle ivoiretv.net, la radio, la télévision... on a utilisé plus ce canal des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons plus de 568 000 abonnés. Et les 568 000 abonnés, ce ne sont pas seulement que des Ivoiriens, mais ce sont des Africains, ce sont des Européens, ce sont des Asiatiques, des Américains qui suivent ivoiretv.net parce que nous parlons de développement local. Nous ne sommes pas... Il y a l'information générale, mais nous ne sommes pas focalisés sur seulement les questions politiques. Mais ce que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous allez voir sur Ivoire TV. Vous allez voir Ivoire TV qui se rend dans une zone où il y a un seul centre de santé pour 15 000 habitants. Vous allez voir Ivoire TV se rendre dans un centre de santé au fin fond du pays où, lorsque tu as le paludisme, ce n'est pas une maladie parce qu'une femme même qui accouche sur un lit d'hôpital, quelques minutes après, il faut la mettre ailleurs parce qu'il y a un seul lit pour 15 000 habitants. Et on attire sincèrement l'attention des dirigeants. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre, nous avons les ressources. Donc, c'est vrai, les gouvernants donnent les moyens qu'il faut pour travailler, mais par moment, il y a des questions d'oubli. Nos autorités les plus proches des populations, il y a des activités qui ne sont pas faites. Donc, nous attirons leur attention de sorte à ce que nos frères de la diaspora sachent que dans ma zone, il y a problème. Eux, à leur tour, peuvent aussi mettre la pression sur les autorités locales, de sorte à pouvoir contribuer au développement. Voici principalement les activités de développement auxquelles sont liées, je dirais, la charge de ivoiretv.net.
D'accord. Donc, est-ce que vous pensez, et cette question elle est adressée à tout le monde, mais qu'on ait une nouvelle génération d'Africains qui demandent le respect de nos pays, c'est-à-dire que même la communication après les printemps arabes autour de la Tunisie, c'était pas la même que pendant l'ère de Ben Ali. On n'est pas seulement un pays touristique qui est bien pour les touristes, mais on est plus que ça. On a des réclamations par rapport à nos droits, par rapport aux libertés, et par rapport à la liberté des médias, etc. Mais dans tous les pays, au Burkina Faso, au Mali, il y a eu un changement de contexte politique radical, mais aussi une nouvelle génération qui a été éduqué peut-être à l'étranger, qui est revenu à son pays pour faire le développement, mais aussi la diaspora justement qui existe dans les autres pays, qui contribue de l'extérieur à changer les choses. Mais quelle est la responsabilité de cette nouvelle génération africaine de laquelle on fait partie par rapport à notre continent, par rapport à notre souveraineté, par rapport à au respect de nos peuples, quoi, à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
Oui, c'est vrai, ce changement, nous le constatons. Je le disais tout à l'heure hors antenne que Lassina Ouattara, c'est mon patron. Pourquoi c'est mon patron? Nous avons une association, les IVLP. Ils ont été les premiers à visiter les États-Unis, à être formés dans le domaine du leadership. Mais quand on est leader, on ne va pas apprendre pour rester dans ce pays. On revient chez soi pour effectivement éduquer la communauté qui est restée au pays. Ils ont été les premiers à être aux États-Unis pour être formés au leadership, mais d'autres personnes auraient préféré rester, fuir et ne plus revenir en Côte d'Ivoire. Mais ils sont revenus. Quand notre génération est arrivée en 2014, on s'est dit, tiens, nous avons eu des aînés qui sont partis. Aujourd'hui, grâce à eux, nous savons comment tracer les sillons du développement. Il faut que nous aussi, nous soyons des exemples. Donc, une fois revenus au pays, on se dit, bien, nous avons appris le leadership. Il faut inculquer ce savoir à nos différentes communautés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plus de liberté, mais ce sont en quelque sorte une liberté empoisonnée. Une liberté empoisonnée parce que ce n'est pas tout qu'il faut dire. Il faut plutôt, avec les réseaux sociaux, avec cette nouvelle génération, montrer la voie qu'il faut suivre. Par exemple, je vais dans une région reculée de mon pays et je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au lieu de blâmer les autorités locales, il faut plutôt présenter la réalité sur le terrain pour dire, tiens, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette région. Puisque vous n'avez pas eu le temps de parcourir toute la région, il faut leur dire que j'ai constaté quelque chose qui ne va pas. Il faut jeter un coup d'œil. Mais quand automatiquement vous prenez votre téléphone, vous filmez la scène, vous dites dans telle région, j'ai vu, c'est la région de telle autorité, il ne fait rien dans telle... Non, tu n'es pas en train de contribuer au développement de ta région. Tu es en train inciter les jeunes à la haine. Et cette nouvelle génération, c'est ce que nous devons savoir. Il faut plutôt, avec nos téléphones, avec ce que nous avons comme technologie, pouvoir militer dans le sens du développement. Pas pour discréditer qui que ce soit, mais quand tu discrédites, qu'est-ce que tu proposes? Voici, en fait, comment moi je vois cette question de la nouvelle génération, la diaspora ivoirienne. On ne va pas aux États-Unis, on ne vient pas dans le pays des autres, dans d'autres pays européens ou américains pour retourner chez soi. Après 50 ans de vie où on arrive chez soi, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que tu as apporté à ton pays? Je sais que j'ai fait 20 ans aux États-Unis, 20 ans en Europe. Je reviens chez moi parce que je sais que j'ai encore au moins 10 ans de vie pour que je puisse apporter quelque chose à ma communauté. Mais quand je reviens, j'ai 80 ans. Mais qu'est-ce que je peux faire encore de plus? À peine mes enfants connaissent mon village. Tous mes enfants sont européens. Tous mes enfants sont américains. Alors que je suis ivoirien, je suis africain. Je pense que c'est des choses qu'il faut voir pour qu'on aille à nos sources. Ce ne sont pas les Européens, les Américains, les autres qui viendront développer notre continent. C'est à nous d'apporter notre pierre à l'édifice pour que désormais, on ne parle plus de Tunisie, on ne parle plus d'Algérie, de Cameroun. On dise, c'est l'Afrique, l'Afrique tout court. C'est ce que je voudrais dire.
En tout cas, merci François Mbradeux pour ce témoignage fort et puissant. Et je pense que vous faites bien de le dire, enfin, l'importance de rationaliser l'usage du numérique, ce rapport qu'on entretient aujourd'hui aux réseaux sociaux, en tout cas ce rapport qu'entretient la nouvelle génération avec l'usage des médias. Et en tout cas, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans votre média, c'est aussi votre façon, au-delà de la simple transmission de l'information, c'est aussi cette ouverture et ce questionnement et le fait d'interroger justement des approches de développement et de pouvoir, au-delà de lancer uniquement des alertes, de pouvoir vraiment creuser et aller en profondeur sur les questions de développement des territoires, des villages et des communautés. En tout cas, je pense que vous renvoyez un message très puissant dans ce sens. Je reviens du coup à Dobé et à votre radio basée en Tunisie. Est-ce que vous souhaiteriez nous en parler un petit peu plus du coup par rapport au financement? Comment vous arrivez à vous en sortir? Quel est le modèle économique de votre radio?
Très belle question. Et déjà, avoir un média subsaharien en Tunisie, déjà, il faut savoir que c'est une forme de lutte. C'est déjà une forme de lutte dans un paysage où l'audiovisuel est littéralement dominé par les médias arabophones et des gros médias. Nous ne sommes qu'un petit poussé, voilà. Déjà, il faut dire que les opportunités sont très minces. Il n'y en a pas d'ailleurs, si on peut dire. Nous ne vivons pas de la publicité. Ce que nous faisons, c'est pardon, nous finançons le média nous-mêmes. C'est un autofinancement. Et voilà, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et on essaie de t'éteindre. Parce qu'au-delà d'être un média, c'est déjà, je pourrais dire comme ça, c'est vraiment une forme de s'affirmer en Tunisie et de dire que, attention, nous sommes là, nous pouvons prendre la parole, nous pouvons dire ce qui ne va pas. Parce que pendant longtemps, nous avons assisté à un narratif qui ne nous plaisait pas. Qui ne nous plaisait pas et on essaie vraiment de déconstruire tout ce qui a été dit. En Tunisie, vous êtes sans l'ignorer que quand un média national parle de la communauté subsaharienne, c'est toujours pour des méfaits. C'est toujours quand ça ne va pas qu'on parle. Un tel a fait un trafic de temps, un tel a fait, c'est toujours ça. Mais on ne met jamais en avant tous ceux-là qui apportent un plus à la Tunisie. On ne met jamais en avant ceux-là qui font des choses que je pourrais dire bien. Ils ne sont jamais mis en avant. Mais une fois qu'on parle de notre communauté, c'est toujours en mal. Cela aussi contribue au fait à créer ce sentiment anti-subsaharien, anti-migrant. Parce que le Tunisien lambda, qui est agent Douba, qui est à Sfax, quand il ne voit que dans les médias, on présente, je pourrais dire, les noirs entre griffes subsahariens, qui sont soit des passeurs de migrants, qui sont soit dans un trafic. Mais pour lui, tout le monde est comme ça, en fait. Parce qu'il ne voit que ça dans les médias. Il ne voit que ça dans les médias. Et nous, on est venu pour leur dire que non, il n'y a pas que ça. C'est vrai que ça peut arriver. Il y a aussi des Tunisiens en France qui ne sont pas clean. Donc, ça peut arriver. Mais néanmoins, il y a aussi d'autres qui sont là et qui apportent à la Tunisie. Et c'est un peu dans cette optique-là que nous travaillons. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas de publicité. Nous essayons de répondre souvent à des appels à projets. On essaie, bon, moyennant quelque chose, il y a des financements pour accompagner les différents projets sur lesquels nous travaillons. C'est un peu de cela que nous vivons en réalité.
Oui, le rêve serait que la Tunisie soit pas seulement une terre de passage pour les migrants, mais que ça soit vraiment une terre d'accueil pour les personnes qui passent et qui se disent bah, finalement, peut-être que j'ai envie de rester, peut-être que j'ai envie de fonder une famille, peut-être que j'ai envie de chercher des opportunités de travail. Enfin, le passage de voilà, ce que les médias relaient comme une communauté qui ne fait que des problèmes, alors que c'est une communauté qui a sa richesse, qui a sa culture, qui a beaucoup d'apprentissage. Moi, je me rappelle quand il y avait la Banque africaine de développement qui était installée à Tunis. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'étudier avec beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes qui viennent du Bénin, etc. Et ça a créé autour du lycée dans lequel j'ai étudié une amitié, en fait, nouvelle. Mes amis ivoiriens, ils utilisent beaucoup de termes tunisiens pour le sarcasme. Ils ont inventé un nouvel humour qui est mélangé du sarcasme ivoirien que je connais, qui est très chaud, quoi. Et aussi un humour tunisien qui est très drôle, en fait. Donc, oui, on devrait réussir à couper ces appréhensions qu'on a l'un sur l'autre, qui a été construite à travers les médias, ou je ne sais pas où ça a commencé, peut-être à la colonisation, peut-être avant, je ne sais pas. Mais là, moi, je pense que notre responsabilité aussi, en tant que jeune, c'est de rappeler qu'on est frères, mais pas que ce n'est pas une discussion voilà, utopique, mais réellement, quoi. Il y a des choses. Enfin, manger dans un restaurant ivoirien ou manger dans un restaurant tunisien, changer. Enfin, le patrimoine culinaire peut être brassé, le patrimoine musical, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Latine?
Excusez-moi, Koulou, sans vouloir vous couper, j'aimerais juste rappeler ceci. Eh bien, effectivement, il y a des subsahariens qui sont en Tunisie et qui ont la volonté de s'établir ici, qui ont fondé des familles ici, qui n'envisagent même pas partir par la Méditerranée. Et donc, ça existe bel et bien. J'en connais, et je pourrais dire que j'en fais partie parce que j'ai lancé mon projet à partir de la Tunisie et tout ça. Et ce que aussi j'aimerais dire aussi, il va falloir que les médias aussi contribuent réellement à cela. Parce que c'est ça en fait l'importance des médias. Il faut que les médias soient plus dans une option de construction en fait pour pouvoir vraiment rétablir cet équilibre-là. Parce que, tenez-vous bien, lorsque on arrête des passeurs de migrants à Sfax, à Monastir, autres, c'est que des subsahariens. Mais est-ce que les subsahariens sont propriétaires d'un bateau en Tunisie? Les bateaux appartiennent à des Tunisiens. Eux, on ne les arrête jamais, on ne les présente jamais à la presse. Ceux qui sont mis en évidence, ceux qui sont affichés, c'est que des blacks. Pour montrer à l'opinion nationale que voici ceux-là même qui contribuent au fait, je pourrais dire, voilà quoi, au trafic de migrants en Tunisie. Mais pourtant, quand des migrants, quand des voyageurs clandestins tunisiens, j'utilise bien ce terme parce que c'est ce terme que les médias utilisent, j'aimerais bien aussi l'utiliser aussi, traversent la Méditerranée et qu'ils soient arrêtés, ils ne sont jamais présentés à la presse.
Donc il faut le dire clairement, il y a un racisme qui existe envers les Noirs en Tunisie.
C'est une autre forme de racisme. C'est déjà créé un sentiment anti-étrangers, anti-migrants, parce que beaucoup se disent aujourd'hui que les migrants sont venus pour envahir les pays, ils sont venus pour leur prendre leur travail et tout. Donc il y a beaucoup de stéréotypes qu'il faut casser déjà. C'est ce petit truc que j'aimerais ajouter en fait.
En tout cas, vous faites bien de le dire parce que ce racisme anti-noir, beaucoup même de gens et de du sud de la Tunisie le vivent. C'est-à-dire que c'est un racisme qui s'étale non seulement à la communauté subsaharienne qui réside en Tunisie, mais également aux personnes noires de peau issues du sud de la Tunisie et qui, quand ils se retrouvent dans les villes du nord à travailler, vivent aussi les mêmes contraintes et les mêmes freins et rencontrent les mêmes entraves en termes d'intégration et en termes d'insertion, que ce soit au niveau de la vie économique, mais aussi au niveau de la vie sociale. En tout cas, je pense que vous avez dit un message très important. Se réapproprier son narratif, se réapproprier son récit en tant que subsaharien, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et je pense que sur ces belles paroles, on peut clôturer en tout cas notre panel. Merci Dobé, merci Ouattara. Un dernier mot peut-être, Ouattara, François?
Un dernier mot, c'est de dire que comme Dobé l'a expliqué, il y a dans les médias quelquefois qu'on connaît, qui sont des médias de renom, il y a forcément donc un narratif qui est tout à fait différent, lié donc à la ligne éditoriale, lié donc aux objectifs et à la mission. Quand vous êtes un média de service public, vous ne traitez pas la même chose que quand vous êtes un média privé ou alternatif, comme vous dites. Donc c'est forcément qu'on va toujours présenter les choses d'une certaine façon. Mais je vais dire, pour quelquefois déconstruire et renverser la tendance, ce ne sera pas donc le même média d'avoir un narratif différent, mais plutôt aux autres médias d'avoir le narratif différent. Et c'est pour ça que dans l'équilibre de l'écosystème des médias, il faut toujours donc des médias alternatifs, des médias éventuellement qui sont des médias institutionnels de renom, etc., mais qui font leur travail quelquefois, on va dire, régalien, parce que donc détenu par l'État ou le service public. Donc c'est cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas, si on est dans un écosystème, et c'est pour ça que la pluralité, donc, elle est... Je pense que c'est quelque chose d'assez important et la liberté d'expression reste quelque chose d'assez important. Là où on présente quelquefois donc le migrant ou alors le subsaharien comme le type dangereux, le bandit, le passeur, etc., vous avez la possibilité de présenter le subsaharien comme celui qui fait une famille, qui fait du business, qui envoie de l'argent chez lui parce qu'il travaille, parce qu'il vient étudier, etc. Et tout ça. Donc c'est vraiment ça qui, je pense, réellement donc fait l'équilibre, même si quelquefois les médias n'ont pas les mêmes puissances, mais de présenter quelquefois un plus petit niveau, ça permet réellement donc d'éveiller les consciences et de dire que je pense qu'on est en Afrique et comme on l'a dit, nous ne sommes plus jeunes, quelquefois plus éduqués, plus diplômés, on comprend plus le monde parce qu'on voyage, parce qu'on va ailleurs. Nos leaders ont leur vision sur quelquefois, ils ont géré peut-être pendant 60, 50, 60, 40 ans. Donc il y a une certaine vision. Nous aujourd'hui qui sommes une alternative, je pense qu'il faut développer notre vision et dans ce brassage-là, je pense que c'est ce qui est, je pense, indispensable. Voilà.
Merci. Merci. Mon dernier mot, chez moi, il y a un proverbe qui dit lorsque vous êtes en face d'un plat, un mets qui est délicieux, c'est en fonction de cela que tu vas tirer ton tabouret pour aller vers. J'ai aussi un ami qui me dit « Eat what you know, taste what you don't know ». Ce que je connais, je mange, mais ce que je ne connais pas, je goûte. Mais quand je goûte ce que je sens que c'est délicieux, au fur et à mesure, je me rapproche. Pour que nous puissions nous rapprocher, les Maghrébins, ceux qui sont de l'Afrique noire, si nous cherchons à connaître les potentialités des uns et des autres, on pourra facilement se rapprocher. En ce moment, on sentira notre africanité. En ce moment, on pourra tous contribuer au développement de notre continent. Mais si tu ne goûtes pas ce que tu ne connais pas et que tu veux en manger, lorsque tu manges et que ça ne va pas, tu te retires automatiquement. Mais quand tu goûtes ce que ça va, on s'attire et on reste dans le même environnement. C'est sur ces mots que je voudrais finir et remercier tous les organisateurs de cette deuxième édition des Assises du journalisme, espérant voir la troisième édition avec plus de lettres de noblesse. Merci.
Merci François Mbradeux, merci Ouattara Lansinan, merci Dobé Aboubakar. Et c'est l'heure du déjeuner. Et merci François de nous avoir donné envie de passer à cette pause.
Bon appétit.
Bon appétit.
Merci, c'était...
Africanité pluriel. Arouk Efrekia. Rencontre. Rencontre. Droka Lametna. Résilience. Une parole libérée pour raconter une autre histoire. Pour raconter des histoires. Tawa. Une revanche de la mémoire. Et des mémoires. Transition. Jina houni nahkiou qassa okhra. برشا قصص